J'enrage est lilloise.
Elle est féministe.
Et elle veut vous parler un dimanche par mois. De 14h à 15h. Soyez là.
J'enrage n'est pas sage.
Clac. La classe. J'enrage. La claque du dimanche après.
Coucou tout le monde, bienvenue sur J'enrage, sur RCV 99FM. Et aujourd'hui, donc, y a Clémy avec nous.
Coucou.
Cass.
Bonjour.
Et moi-même, Loïse. Et donc aujourd'hui, notre thématique, et vous l'attendiez tous et toutes avec impatience.
Oh oui.
Oh oui, la honte. On reverra ça un peu, voilà, on définira, on lira beaucoup d'extraits de textes et puis on aura aussi une super chronique de Clémy sur le slut-shaming. Avant ça, on va faire notre chronique actu comme tous les mois. Et donc Cass, je te laisse la parole.
Oui, alors du coup je vais démarrer par une action qui a été faite dans la nuit du 10 au 11 octobre à Paris, à l'occasion de la Journée internationale du droit des filles. Donc, des fontaines ont été repeintes à la couleur des règles pour dénoncer ce tabou. Cette action a été faite, il me semble, en tout cas a été revendiquée par le collectif Insomnia. C'est un collectif féministe luttant contre les propos sexistes véhiculés par des enseignes, marques, institutions ou tout autre corps en relation avec la sphère publique. Ce matin, vos fontaines sont rouges sang. Paris s'éveille face à des draps tachés de nos mots, rouge vif, le sang de la violence ne choque pas, le sang des règles dégoûte.
Yeah.
Voilà.
Allez, on arrête le sang bleu pour les pubs genre Always, etc. Merde, faut pas citer de marque, mais toutes clair. Ces pubs où en fait, en gros, il n'y a pas de sang et juste il y a ton petit liquide bleu là. Bah, en fait, non, ça se passe pas comme ça pendant mes règles. Hein.
C'est clair, fini les merdes qu'ils foutent dans les tampons, serviettes et compagnie, choc toxique, bonjour, ça va quoi.
Yeah. Vive les cups.
Et du coup, j'ai passé un autre truc vachement sympa. Donc, c'est une nouvelle émission qui va être faite chez nos amis belges sur Radio Panique. C'est une émission qui s'appelle « Les courriers du cœur du cul ». Alors, pourquoi ce joli nom? C'est une émission de libre antenne pour réfléchir ensemble à nos affectivités et à nos sexualités, avec une optique queer et d'empowerment. Tous les jours, tous les premiers samedis du mois, de 19h à 20h, sur Radio Panique 105.4. C'est une question de cœur ou de cul? Viens, on essaie d'y répondre ensemble. Une petite annonce à faire passer, un secret à partager, un témoignage à apporter, une grande déclaration à exprimer. Appelle-nous, écris-nous. Voilà.
Ça donne envie, en tout cas.
C'est vrai, c'est clair. Et je vais terminer... Sur alors excusez-moi pour les bruits de papier parce que j'en ai vraiment beaucoup.
Ça montre que t'es quelqu'un de sérieux.
T'as préparé ton truc, tellement... Cass, c'est tout, c'est juste ça.
Ouais, enfin préparé. Alors du coup voilà, Ouvrir la voie, c'est un film documentaire qui a été réalisé par Amandine Gay. C'est un documentaire sur les afro-descendantes noires d'Europe francophone. C'est le résultat de près de 3 ans de travail en autoproduction. Et appuyé aussi sur une campagne de financement participatif pour la phase de post-production. Le film aborde certes la question des intersections de discrimination, mais il révèle aussi l'hétérogénéité et la grande diversité au sein des communautés afrodescendantes, qu'il s'agisse de rapports de ces femmes à la créativité, à la parentalité, à la dépression, à la sexualité ou à la religion. Alors voilà, c'est un film qui est sorti ce mois-ci, je crois.
Et 11 octobre, exactement.
Ouais, moi, je suis pas encore allée le voir, mais j'attends qu'il vienne à Lille. Et justement, alors il vient pas à Lille, mais il vient pas loin. Il y a une projection le samedi 25 novembre au Frénois. C'est le Studio National des Arts Contemporains de Tourcoing. À partir de 20h, l'entrée est gratuite et c'est organisé par Identité Plurielle. Il me semble que c'est un collectif féministe et antiraciste qui fait des trucs assez chouettes.
Tout à fait.
Voilà, enfin, voilà.
Moi, j'en ai entendu que du bien, en tout cas.
C'est vrai.
Plein de fleurs, de paillettes.
C'est validé par J'enrage.
C'est ça, c'est validé à fond.
Et je voudrais juste rajouter que normalement, ça devrait venir à Lille fin janvier. On y travaille. Voilà.
Super.
Moi, je vais laisser le micro à l'une d'entre vous.
J'y vais. Alors moi, je vais parler rapidement, je vais essayer d'en parler aussi rapidement que possible, de la Weinstein Gate. Je pense que tout le monde en a entendu parler, au cas où. Weinstein, Harvey Weinstein, c'est cette espèce de gros nabab producteur hollywoodien super connu. Qui, le 5 octobre, a été accusé par Ashley Judd et Rose McGowan d'harcèlement sexuel. Suite à quoi d'autres personnes, d'autres langues se sont déliées et d'autres personnes l'ont accusé. Alors voilà, là, il y a quelques personnes quand même qui se disent « ça y est, sa carrière est foutue, sa carrière est ratée, etc. » 26 personnes en tout ont porté plainte. Alors je voudrais quand même rassurer les personnes qui s'inquiètent pour lui. On en a connu d'autres qui avaient commis des violences envers des femmes et que ça n'a pas empêché quelques années plus tard de faire la une des Inrock. Donc ne vous inquiétez pas pour sa carrière, c'est peut-être juste un mauvais passage pour lui. J'ai juste une petite chose aussi encore à dire sur cette affaire Weinstein, c'est j'ai l'impression que pour que les affaires de viol comme ça soient très médiatisées, il faut soit qu'elles soient spectaculaires dans genre des tournantes, dans des cités, quelque chose qui va un peu confirmer nos clichés et être spectaculaire, soit que ce soit une personne, un homme riche qui s'attaque à des femmes riches et à des femmes célèbres. Et je voudrais juste prendre une petite minute et en placer une petite pour toutes les victimes des Harvey Weinstein qui ne sont ni Gwyneth Paltrow, ni Ashley Judd, ni Rose McGowan, pour toutes les femmes de chambre, au hasard, ou les femmes de ménage qui se font violer et autre chose, sans qu'on en parle trop dans les médias et sans que ça ne lance des mouvements tels le MeToo, qui a donc été, c'est un hashtag qui a été lancé sur les réseaux sociaux pour encourager les femmes, donc moi aussi, pour encourager les femmes à prendre la parole et dénoncer leurs harceleurs, leurs violeurs, leurs agresseurs sexuels. Et ça a effectivement libéré beaucoup de paroles, ça a effectivement aidé beaucoup de femmes, je pense, à savoir qu'elles n'étaient pas seules finalement. Mais bon, ça a aussi traumatisé beaucoup de personnes qui étaient en train d'essayer de se remettre de leurs propres agressions. Mais l'important, c'est que ça a libéré des paroles. Mais ça a aussi laissé croire certains hommes que c'était une occasion pour eux, encore une fois, de prendre la parole, de parler qu'eux aussi sont des violeurs, qu'eux aussi sont des agresseurs, mais qu'il faut dédiaboliser l'idée de l'image du violeur qui serait seulement le méchant inconnu dans la rue. Alors j'ai envie de leur dire déjà, nous on le sait en fait, que le violeur, ça peut être notre frère, notre pote. C'est même un peu ça qui est insupportable dans tout ça. Et puis si vraiment, vraiment, vous n'arrivez plus à dormir la nuit, vu que c'est encore un crime passible de prison, bah, vous pouvez aller vous dénoncer tout simplement et arrêter d'utiliser nos espaces pour vos larmes à vous. Voilà.
Waouh, la classe. Et ouais, je suis à fond d'accord avec toi. Et ça ferait du bien, c'est vrai. Dénoncez-vous.
Oui.
Alors, pour finir un peu sur un truc un peu plus positif qui se passe en ce moment, il y a la revue Panthère Première qui vient de sortir, une revue 100% faite par des meufs, voilà, du début jusqu'à la fin, et qui fait du bien, qui est vraiment chouette. Déjà, c'est un super bel objet. Les photos, les images sont magnifiques. Et donc, là, ce dont elle parle, donc, moi, j'ai un peu parlé avec une des meufs qui fait partie de la rédaction et qui me disait bah en fait il y a des sujets qui pourraient se relier. Il parle du sentiment d'impuissance et de honte qu'on peut avoir face aux experts, face aux institutions, aux choses comme ça. Ça parle aussi de maltraitance médicale, etc. Mais ce qui est chouette, c'est aussi un magazine de meufs qui parle d'autre chose que des questions de genre et qui n'est pas cantonné à ça. Aussi, à un moment, c'est de dire bah en fait on est des meufs, on peut parler de tout comme les mecs. Et je trouve que ça, c'est assez chouette et que ça fait un peu chaud dans nos cœurs.
Oui, ça change.
Voilà. Et donc, là, on va peut-être écouter une petite musique avant de parler des choses sérieuses et de discuter de la honte et d'être au cœur du sujet. Donc, on va écouter Sexy Sushi, cette haine qui m'incarne. Allez, casse, balance le son.
Allez, je balance la...
Toutes les belles choses, mais toutes ces larmes.
Jean Rage, galaxie féministe, vous invite dans son No Man's Land.
Rebonjour, vous êtes bien de retour sur RCV 99 FM pour notre émission Jean Rage, qui aujourd'hui est sur la honte. Du coup, je vais vous retourner le micro avec Loïse.
Yeah. Alors la honte, c'est l'envie de... Alors je cite Christophe André, c'est l'envie de disparaître aux yeux d'autrui. Quand on sort d'une norme ou d'une règle sociale, c'est se sentir rabaissé aux yeux des autres et c'est lié à l'estime de soi. La honte, elle se différencie... Alors elle te dit déjà, c'est la petite voix qui te dit dans ta tête, je sais que tu es nul, tu es moche, que tu mens, que tu dis n'importe quoi, que tu ne sers à rien, que... voilà, que plein de choses. Et en raccourci, elle te dit soit tu n'es pas assez bonne, soit mais pour qui tu te prends. Et donc la honte, elle se dissocie de la culpabilité. C'est parce que la culpabilité, elle se fait sur quelque chose qu'on a fait. C'est-à-dire quand on culpabilise, on va dire j'ai mal fait un truc. Quand on a honte, on va dire je suis mauvaise, je ne sers à rien. Et donc si on fait du mal à quelqu'un et qu'on culpabilise, on dira je suis désolée, j'ai fait une erreur. Si on a honte, on va dire je suis une erreur. La honte, ça a un lien avec plein d'autres problématiques et troubles selon pas mal de psychologues qui parlent, qui disent qu'en fait, c'est lié aussi aux questions d'addiction, de suicide, de troubles alimentaires, etc. Et en fait, ce qui n'est pas forcément le cas pour la culpabilité. Et donc ça, je trouvais que c'était hyper intéressant. Donc c'est Brené Brown, dont je vous parlerai plus tard, qui parle de ces choses-là. Et elle, elle fait un lien direct aussi sur le fait que la honte... quand on va évoquer des problématiques de domination, c'est forcément lié aux questions donc, de privilèges. Et donc, ça ramène automatiquement la honte. Elle va s'immiscer dans cette discussion, dans les affects des personnes à ce moment-là, dès qu'on va évoquer ces questions-là. Et alors voilà, après, le truc, c'est que moi, aujourd'hui, je me suis dit, voilà, on sait ce que c'est la honte. Y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont travaillé sur la question et en même temps, moi, j'avoue que j'ai deux personnes qui m'ont accompagnée dans moi, mes propres hontes, qui sont mes hontes liées à ma classe, à mon sexe, à mon orientation sexuelle. Et y a deux personnes donc, qui sont Annie Ernaux et Didier Ribon qui ont fait écho à tout ça. Et moi, la honte, elle me suit, elle m'a toujours suivie. C'est un truc qui fait partie de moi, qui est une émotion qui est très, très présente et qui est une de mes problématiques. Et je me suis dit que j'avais envie de vous lire certains extraits qui m'ont un peu chamboulée quand on parle de honte. Et donc, voilà, j'ai pris un petit temps. Donc, le premier extrait que je vais vous lire, ça vient de La Place, de Annie Ernaux. C'est un bouquin qu'elle a écrit sur son père. Elle a essayé de créer une écriture degré zéro. Alors, ce qu'elle veut dire, c'est sans exprimer vraiment d'émotion, mais plus en racontant des faits. Et voilà, je vous laisse avec elle. Donc, on est à la page 71 et elle parle de son père. Et d'elle et de son rapport à tout ça. Je travaillais mes cours, j'écoutais des disques, je lisais, toujours dans ma chambre. Je n'en descendais que pour mettre la table. On mangeait sans parler. Je ne riais jamais à la maison. Je faisais de l'ironie, entre guillemets. C'était le temps où tout ce qui me touche de près m'est étranger. J'émigre doucement vers le monde petit bourgeois, admise dans ces surboums dont la seule condition d'accès, mais si difficile, reste à ne pas être cucu. Tout ce que j'aimais me semble pecno. Luis Mariano, les romans de Marianne Desmarais, Daniel Gray, le rouge à lèvres et la poupée gagnée à la foire qui étale sa robe de paillettes sur mon lit. Même les idées de mon milieu me paraissent ridicules, des préjugés. Par exemple, ouvrez les guillemets, la police, il en faut. Ou encore, on n'est pas un homme tant qu'on n'a pas fait son service. L'univers, pour moi, s'est retourné. Je lisais la, entre guillemets, vraie littérature et je recopiais des phrases, des vers qui... je croyais exprimer mon âme, l'indicible de ma vie, comme « le bonheur est un dieu qui marche les mains vides ». Mon père est entré dans la catégorie des gens simples ou modestes ou braves gens. Il n'osait plus me raconter des histoires de son enfance. Je ne lui parlerai plus de mes études, sauf le latin, parce qu'il avait servi la messe. Elle lui était incompréhensible et il refusait de faire mine de s'y intéresser, à la différence de ma mère. Il se fâchait quand je me plaignais du travail ou critiquais les cours. Le mot « prof » lui déplaisait, ou dire l'eau, même « bouquin ». Et toujours la peur, ou peut-être le désir, que je n'y arrive pas. Il s'énervait de me voir, à longueur de journée dans les livres, mettant sur leur compte mon visage fermé et ma mauvaise humeur. La lumière sous la porte de ma chambre le soir lui faisait dire que je m'usais la santé. Les études, une souffrance obligée pour obtenir une bonne situation et ne pas prendre un ouvrier. Mais que j'aime me casser la tête, lui paraissait suspect. Une absence de vie à la fleur de l'âge, il avait parfois l'air de penser que j'étais malheureuse. Devant la famille, les clients, de la gêne, presque de la honte, que je ne gagne pas encore ma vie à 17 ans. Autour de nous, toutes les filles de cet âge allaient au bureau, à l'usine, ou servaient derrière le comptoir de leurs parents. Ils craignaient qu'on me prenne pour une paresseuse, et lui pour un crâneur. Comme une excuse, il disait. On ne l'a jamais poussée, elle avait ça dans elle. Il disait que j'apprenais bien, j'aimais que je travaillais, jamais que je ne travaillais bien. Travailler, c'est seulement travailler de ses mains. Les études n'avaient pas pour lui de rapport avec la vie ordinaire. Il lavait la salade dans une seule eau. Aussi restait-il souvent des limaces. Il a été scandalisé quand, forte de mes principes de désinfection reçus en troisième, j'ai proposé qu'on lave la salade dans plusieurs eaux. Une autre fois, sa stupéfaction a été sans borne de me voir parler anglais avec un autostoppeur qu'un client avait pris dans son camion. Que j'ai appris une langue étrangère, en classe, sans aller dans le pays, le laisser incrédule. À cette époque, il a commencé à entrer dans des colères rares, mais soulignées d'un rictus de haine. Une complicité me liait à ma mère, histoire de mal de ventre mensuel, de soutien-gorge à choisir, de produits de beauté. Elle m'emmenait faire des achats à Rouen, rue du Gros Horloger, et manger des gâteaux chez Perrier, avec une petite fourchette. Elle cherchait à employer des mots, mes mots, flirt, être un crack, etc. On n'avait pas besoin de lui. La dispute éclatait à table pour un rien. Je croyais toujours avoir raison parce qu'il ne savait pas discuter. Je lui faisais des remarques sur sa façon de manger ou de parler. J'aurais eu honte de lui reprocher de ne pas pouvoir m'envoyer en vacances. J'étais sûre qu'il était légitime de vouloir le faire changer de manière. Il aurait peut-être préféré avoir une autre fille. Un jour, il me dit « Les livres et la musique, c'est bon pour toi. Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre. » Le reste du temps, il vivait patiemment. Quand je revenais de classe, il était assis dans la cuisine, tout près de la porte donnant sur le café à lire Paris-Normandie, le dos voûté, les bras allongés de chaque côté du journal étalé sur la table. Il levait la tête. « Tiens, voilà la fille !» Je lui répondais « Ce que j'ai faim !»« C'est une bonne maladie, » me disait-il. « Prends ce que tu veux. » Heureux de me nourrir, au moins. On se disait les mêmes choses qu'autrefois quand j'étais petite, rien d'autre. Je pensais qu'il ne pouvait plus rien pour moi. Ses mots et ses idées n'avaient pas cours dans les salles de français ou de philo. Les séjours à canapé de velours rouge des amis, de classe. L'été, par la fenêtre ouverte de ma chambre, j'entendrais le bruit de sa bêche aplatir régulièrement la terre retournée. J'écris peut-être, parce qu'on n'avait plus rien à se dire.
C'est beau.
Ouais, alors je sais pas, je pense que je vais prendre chaque extrait à part. Moi, cet extrait-là, il me parle vachement parce qu'il y a ce truc de cet attachement à... Quand on est d'une classe sociale, elle parle vraiment d'être transfuge de classe et moi, ça me parle énormément. Je pense que j'avais conclu la dernière émission là-dessus quand j'ai parlé des chaussures Louis Vuitton de mes camarades. Mais ça me fait aussi penser à quand j'étais en coloc avec des copines qui faisaient la même école que moi et que leurs parents, ils venaient, ils écoutaient France Culture et que chez moi, non, en fait, c'est pas ça qu'on fait, c'est pas nos pratiques, en fait. Et qu'à un moment... Comment tu construis ta place quand tu deviens un transfuge et comment tu fais sans avoir honte de ce que t'es et sans jamais Moi, je me suis jamais sentie à ma place, en fait. Et ça, ça a été quelque chose d'hyper important aussi à réfléchir. Et je trouve qu'Annie Arnaud, elle m'a vachement accompagnée là-dedans. C'est-à-dire que c'est une meuf, elle a toujours été hyper communiste. Elle a écrit plein de bouquins, justement, sur ce truc de comment on fait. Et voilà, elle s'est mariée avec un type. Elle a fait des grandes études de lettres. Elle a été prof. Elle s'est mariée avec un type qui avait fait Sciences Po Bordeaux. Enfin, voilà, elle a fait plein de choses qui l'ont d'autant plus amenée chez des bourgeois. Et en même temps, je trouve qu'elle décrit avec cette pointe de honte et de comment on remet les gens à sa place, parce que clairement, quand elle dit ils savaient pas discuter, je sais que moi, c'est des choses que j'ai pu dire à mes parents, c'est ce mépris que j'ai pu leur envoyer, mais c'est aussi des choses que moi j'ai pu prendre parce que on me remettait à l'ordre, donc je remettais à l'ordre, et c'est comment tout un contexte très petit bourgeois s'installe dans la société et qu'on dit surtout aux personnes qui sont d'une classe plus basse, bah en fait, en gros, voilà, ressemble-nous, sinon tu n'as pas lieu d'être, quoi. Et je trouve que ça, elle le dit en même temps avec beaucoup de tendresse, et cette image du père dans le jardin. Voilà, moi, c'est vrai que la première fois que je l'ai relu là récemment, bon, voilà, je me suis mise à pleurer, c'était beau. Voilà. Et donc, cette honte-là, cette honte de ce qu'on est quand on fait partie de cette classe, je trouve que c'est assez chouette comment elle l'exprime. Je sais pas si ça vous fait penser à des trucs.
Pour moi, tu décris en fait un processus, excuse-moi, Cass, d'intériorisation de la honte, c'est-à-dire que la société, c'est l'autre qui a un regard sur toi. Et de la même façon, je pense, je fais peut-être des parallèles un peu foireux, mais qu'on va essayer de faire disparaître les signes de négritude ou d'arabitude sur soi, parce que même si c'est ce qu'on connaît et c'est ce qu'on voit, c'est quelque chose qui... Voilà, qu'on a... intérioriser complètement la haine de l'extérieur. Je suis un peu perturbée, pardon. Je te laisse reprendre.
C'est une...
Oui, pardon. Je vais arrêter de m'excuser, ça suffit. Oui, alors... Moi, du coup, comme Clémy, j'ai trouvé ce passage du livre très très beau.
Ouais,
bah moi en fait, on en a déjà parlé. Hein,
mais pas à la radio, je pense.
Non, pas à la radio, mais en fait de cette espèce de, comment dire, attache contraire qu'il y a entre la culpabilité et la honte. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ça peut être très 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 facilement relié. Et notamment dans ce texte ou ce que tu dis aussi, parce que du coup, en fait, les deux se rejoignent. Enfin, je pense que tu n'as pas pris ce texte par hasard, forcément.
Non.
Moi, j'ai l'impression que, du coup, en plus de la honte qui fait que... On va vraiment intérioriser son passif et de la classe d'où on vient. En plus, il y a la culpabilité de le faire, en fait. Mmh. Et je pense que c'est une espèce de double punition. Et c'est un peu dommage que ce soit pas la classe dominante qui vit ça de temps en temps, quoi.
Ouais, ben, ça a peu de chances d'arriver. Alors, pour le prouver, j'ai un deuxième petit extrait. Alors, j'ai choisi celui-là. Donc, c'est Didier Ribon, Retour à Reims. Donc, Didier Ribon... qui est aujourd'hui prof de fac, je crois qu'il est encore à Amiens, je sais pas, et qui est sociologue, et qui analyse, en fait, son père vient de mourir, et il va revoir sa mère à Reims. Sachant que lui est homosexuel, et que ce qu'il dit un peu, c'est qu'en gros, pour pouvoir être ce qu'il était, il fallait qu'il se dissocie de sa classe. Et notamment, voilà, je relirai un petit extrait qui parle justement du fait qu'il soit homosexuel. Et cet extrait-là, il m'a fait penser aussi à mon premier amour, alors parce qu'il parle un peu du sien. Et voilà. Au lycée, à l'âge de 13 ou 14 ans, je me liais d'une amitié étroite avec un garçon de ma classe, fils d'un professeur de l'université, alors embryonnaire de la ville. Il ne serait pas excessif de dire que j'étais amoureux de lui. Je l'aimais comme on aime à cet âge-là. Mais puisque nous étions deux garçons, il était évidemment impossible pour moi de lui exprimer les sentiments que j'éprouvais à son égard. C'est l'une des difficultés les plus traumatisantes de l'attirance homosexuelle au cours de l'adolescence. Ou à d'autres moments de la vie d'ailleurs, on ne peut pas exprimer ce que l'on ressent pour quelqu'un du même sexe que soi. Ce qui explique la nécessité des lieux de rencontre où il est entendu que les lois de l'évidence ont été inversées dès lors qu'on en connaît l'existence et qu'on a l'âge de les fréquenter. J'ai écrit « Impossible de lui exprimer ses sentiments ». bien sûr. Mais d'abord, de les formuler en ces termes pour moi-même. J'étais encore trop jeune, et toute la culture était, et encore très largement, organisée de telle sorte que l'on ne dispose pas à cet âge-là de références, d'images, de discours pour comprendre et nommer cet attachement affectif si intense, autrement qu'à travers les catégories de l'amitié. Un jour que le professeur de musique demandait aux élèves de reconnaître un morceau qu'il allait nous faire écouter, je fus ahuri de voir ce garçon lever le bras au bout de quelques mesures et annoncer triomphalement « Une nuit sur le Mont Chauve » de Moussorgski. Et moi, pour qui ce cours était tout simplement ridicule, ce type de musique insupportable, moi qui n'étais jamais en peine de trouver une raillerie, mais qui voulait avant tout lui plaire, je fus désarçonnée par cette découverte. Il connaissait et aimait ce qui me semblait ne pouvoir être qu'objet de rire et de rejet. Ce qu'on appelait chez moi, entre guillemets, la grande musique, quand on tombait sur une radio qui en diffusait et que l'on s'empressait d'éteindre en disant « Oh, ça va, on n'est pas à la messe !» Il avait un beau prénom, moi un prénom banal. Cela symbolisait en quelque sorte l'écart social entre lui et moi. Il habitait avec sa famille dans une grande maison située dans un quartier aisé proche du centre de la ville. Aller chez lui m'impressionnait et m'intimidait. Je ne voulais pas qu'il comprenne que j'habitais dans une cité nouvelle à la périphérie, et je restais évasif quand il me posait des questions à ce sujet. Un jour pourtant, curieux sans doute de savoir où et comment je vivais, il vint sonner à ma porte sans m'en avoir averti au préalable. J'en fus mortifiée. Malgré la gentillesse que traduisait ce geste, que j'aurais dû considérer comme une façon pour lui de me signifier que je n'avais aucune raison d'avoir honte. Il avait des frères et des sœurs plus âgés que lui et qui suivaient des études à Paris. Et en raison de l'atmosphère familiale dans laquelle il baignait, sa conversation charriait des noms de cinéastes et d'écrivains. Il me parlait des films de Godard, des romans de Beckett. À côté de lui, je me sentais très ignorant. Il m'apprenait tout cela et surtout l'envie d'apprendre tout cela. Il me fascinait et j'aspirais à lui ressembler. Je me mis à parler, moi aussi, de Godard, dont je n'avais rien vu, et de Beckett, dont je n'avais rien lu. Il était évidemment bon élève et ne manquait jamais une occasion d'afficher une distance dilettante avec le monde scolaire, et j'essayais de jouer le même jeu alors que je ne disposais pas des mêmes atouts. J'appris à tricher, je m'attribuais des connaissances que je n'avais pas, qu'importait la vérité. Seules comptaient les apparences et l'image que je m'évertuais à fabriquer et à donner de moi-même. J'allais jusqu'à imiter sa manière d'écrire, je veux dire sa graphie. Et aujourd'hui encore, les lettres que je forme sont l'un des vestiges de cette relation d'autrefois. Une relation qui d'ailleurs ne dura que fort peu de temps. Je le perdis bientôt de vue.
Eh ben...
On est très queer autour de
nous. Oui, c'est ça.
Sûrement, ça nous parle à toutes, j'imagine.
Oui, ça parle. C'est... Ouais. Puis je trouve qu'il arrive aussi vachement bien à décrire ce truc de... Enfin, moi, je me souviens, cette fille, elle avait ses parents déjà lui donnaient plein de thunes pour acheter des bouquins. Des bouquins quand on était juste au lycée. Donc, elle achetait plein de bouquins. Sa chambre, elle était couverte de livres et tout. Et j'avais cette fascination de « Oh là là !» Et puis, elle découvrait toujours les nouveautés, les trucs chouettes. Et c'est vrai que je me suis toujours sentie hyper pourrie par rapport à tout ça. Et j'ai eu... Enfin, en fait, c'est drôle, c'est que j'ai mis vraiment très longtemps à découvrir la honte de classe que j'avais par rapport à elle et la honte de ce à quoi, chez mes parents, ça ressemblait aussi. Je veux dire, moi, mes parents, j'habitais à la campagne. Il y a une époque où on avait un pote qui nous donnait les poubelles de Leclerc, donc il y avait des caddies Leclerc partout, voilà, c'est pas du tout fini, c'est pas propre, etc. Et elle avait cette maison, voilà, toute parfaite à Amiens, etc. Et c'est vrai que c'était très étrange, et c'est vrai de se revoir et de relire ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, clairement, oui, il y a eu ces enjeux-là et cette difficulté de pouvoir dire des choses, quoi.
En fait, c'est comme si le sentiment amoureux mettez d'un seul coup un enjeu, surtout quand c'est à l'adolescence, que t'as pas encore mis les mots sur toutes ces choses-là, sur ton homosexualité, sur les classes sociales, des choses comme ça. C'est le fait que d'un seul coup, il y ait le sentiment amoureux qui fait que tu te dis oui, là c'est... En fait, le fait que tu te dises je suis pas assez bien pour cette personne rend cette différence de classe vachement plus violente.
Ouais, puis cette période en plus à l'adolescence, enfin, t'es vachement vulnérable à toutes ces normes. Parce que pour qu'un peu, je sais pas, tu sois dans un environnement social qui ne te reflète que des normes hyper stigmatisantes comme ça.
Ouais, alors je vais vous raconter un truc un peu. Petite anecdote un peu.
Allez.
Donc c'était genre les premiers émois, donc pareil, donc voilà, avec cette personne où. Où on flirtait, etc. Et je me suis rendu compte que... Et c'est... Mais vraiment, le cerveau est fou. Où mon cerveau, à un moment, je me suis dit oh, « Mais qu'est-ce que mes parents vont penser ? Et ils vont plus m'aimer. Et je suis vraiment trop nulle. Et vraiment, ça peut pas exister, en fait. » Et c'est vrai que cette découverte-là, elle ne fait qu'augmenter à cette stigmatisation de classe, en fait. Et c'est assez énorme, en fait. Et je trouve ça assez intéressant aussi, en plus, de pouvoir le mettre... en perspective, ouais.
Alors, je peux y aller, Louise ?
Ouais, vas-y. Ouais.
Alors moi, j'aimerais bien faire un petit parallèle, du coup, de cette honte qui, en plus, est mise dans des relations intimes et amoureuses par rapport avec le fait que je sois une meuf grosse qui sorte actuellement avec une meuf mince. Qui correspond quand même aux normes actuelles. Enfin voilà, elle est blanche, elle est mince, elle est sportive. Même socialement, elle est quand même bien située. Elle a un CDI, elle a des amis. Elle est... voilà, ça, à côté de ça, à côté de ses normes, ça reste une personne exceptionnelle. Il faut, voilà, faut quand même qu'elle ait, reconnaître qu'elle est privilégiée au moins sur certains trucs. Et du coup, moi, je sais que au niveau relationnel, intime, je peux pas m'empêcher, en fait c'est tellement construit en moi de faire des comparatifs de mon corps qui est gros, de mon corps que je ne vois jamais partout dans les médias, que de me dire mais, oh, mais alors quand je me balade dans la rue, enfin je veux dire à chaque fois je me dis mais purée, mais qu'est-ce qu'on est mal assorti quoi. Enfin, même quand on se regarde dans la vitre, et je sais qu'en fait c'est du bullshit, je sais que c'est des conneries, mais comment, bah, que veux-tu.
C'est ta petite voix de cerveau de honte,
ouais,
qui te dit...
C'est blanc dans ta tête. C'est blanc hétéro dans ta tête qui te dit ouais. Toujours « tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez bien
ah, ». Voilà. On verra un petit... mais je pense que je t'ai déjà dit 15 fois de le regarder. Je vous parlerai après de Brené Brown.
Oh oui.
Qui nous aide un peu et qui nous dit un peu... Ben, peut-être que... Qui nous parle de vulnérabilité, justement, et qui nous dit à quel point la vulnérabilité, c'est chouette. Et alors, une petite lecture de conclusion, vu qu'il y a Cass qui me dit « Hey, il reste 3 minutes !» Et donc, pour le coup, qui parle vraiment pour le coup là, de l'orientation sexuelle. Donc, c'est toujours Didier Ribon dans son livre « Retour à Reims ». Il me dit, quand je... Alors, il me dit, oui, il me parle. Didier me parle. Moi, j'ai arrêté. Si je fais une blague juste avant une lecture hyper émouvante, je pense que ça a moins de force, mais on va essayer, ça va aller. Quand je me remémore ces années de mon adolescence, Reims m'apparaît non seulement comme le lieu d'un ancrage familial et social qu'il me fait quitter pour exister autrement, qu'il me fallait quitter pour exister autrement, mais également, et ce fut tout autant déterminant, dans ce qui guida mes choix, comme la ville de l'insulte. Combien de fois m'y suis-je fait traiter de pédé ou d'autres mots équivalents ? Je ne saurais le dire. Du coup, du jour où du jour où je la rencontrais, l'insulte ne cessa de m'accompagner. Oh, certes, je la connaissais depuis toujours, qui ne la connaît pas. On l'apprend en apprenant le langage, avant même de savoir ce qu'elle signifie. Je l'entendais aussi bien chez moi qu'à l'extérieur du foyer familial. J'ai raconté plus haut que mon père exprimait sa colère à l'égard des personnalités politiques lorsqu'il regardait la télévision. Et il en allait de même quand il voyait apparaître à l'écran ceux qu'il exécrait en raison de leur sexualité réelle ou supposée. Jean Marais figurait-il au générique d'un film ? Mon père répétait alors toutes les 5 minutes « C'est une pédale, c'est une tapette, c'est une tantouse !» Et ce, d'autant plus que ma mère ne manquait jamais une occasion de dire qu'elle le trouvait beau. Elle n'aimait pas ce genre de phrase et lui répondait systématiquement « Mais qu'est-ce que ça peut te faire ?» Ou bien « Les gens font ce qu'ils veulent, ça ne te regarde pas !» Parfois, elle changeait de registre et devenait moqueuse. « Peut-être, mais il est plus riche que toi !» Découvrir peu à peu ce qu'étaient mes désirs et ce que serait ma sexualité signifia donc pour moi entrer dans cette catégorie préalablement définie et stigmatisée par ces mots d'insulte et éprouver l'effet de terreur qu'ils exercent sur ceux qui les reçoivent et les ressentent comme ce à quoi ils risquent d'être exposés toute leur vie. L'insulte est une citation venue du passé. Elle n'a de sens que parce qu'elle a été répétée par tant d'autres locuteurs auparavant. Un mot vertigineux, venu des fonds des âges, comme le dit un vers de Genet. Mais elle représente aussi, pour ceux qu'elle vise, une projection dans l'avenir. Le pressentiment affreux que ces mots et la violence dont ils sont porteurs les accompagneront tout au long de leur vie. Devenir gay, c'est devenir la cible et s'apercevoir qu'on était potentiellement la cible avant même de le devenir réellement. Et donc avant même d'en avoir conscience, d'un vocable mille fois étant entendu et dont on ne connaît depuis toujours la force injurieuse. On est précédé par une identité stigmatisée que l'on vient à son tour habiter et incarner et avec laquelle il faut se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Et si elles sont diverses et nombreuses, les manières possibles sont toutes marquées au sceau de cette puissance constituante de la profération injurieuse. Non pas que l'homosexualité soit une issue qu'on invente pour ne pas suffoquer comme l'avance Sartre en une formule énigmatique à propos de Genet, mais plutôt que l'homosexualité impose de trouver une issue pour ne pas étouffer. Je ne puis m'empêcher de penser que la distance qui s'instaura et que je m'efforçais d'instaurer avec mon milieu social et l'autocréation de moi-même comme, entre guillemets, intellectuel, constituèrent la manière que j'inventais pour me débrouiller avec ce que je devenais et ne pouvais devenir qu'en m'inventant différent de ceux dont je différais. Je me suis décrit plus haut en évoquant ma trajectoire scolaire comme un miraculé, entre guillemets. Il se pourrait bien que, en ce qui me concerne, le ressort de ce miracle ait été l'homosexualité.
D'accord, super, beau ouais. Texte. Alors par contre, on est un petit peu à la bourre sur le temps. Du coup, on va vous lancer une jolie petite musique qui s'appelle « Qu'attendez-vous de moi ?» de Dougie Huggy.
Qu'attendez-vous? je ne sais rien de vous. Je ferais mieux, je crois, de m'en aller sans rien dire. Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Que puis-je vous offrir?
J'enrage, dérange, dessape, décape le sexisme et l'hétéropatriarcat.
Coucou, vous êtes de retour sur RCV 99 FM avec J'enrage. Et là, on laisse le dance floor à Clémy pour sa chronique sur le slut shaming.
C'est
le
parti.
Dance floor, carrément.
Alors oui, je vais vous parler donc du slut shaming que je vais essayer de traduire littéralement par la honte d'être une salope. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez ou si on vous l'a fait aussi quand vous étiez petit, on utilisait un peu la honte pour vous empêcher de faire certaines choses. Par exemple, si t'es pas sage, le père fouettard il va venir te fouetter. Bon, c'est pas juste la honte, c'est la peur, d'accord. Et puis si t'es pas sage, le père Noël il viendra pas. Et puis si t'es pas sage à l'école, tu porteras le bonnet d'âne, etc. Et moi je m'étais dit, c'est cool quand on est grand, au moins on peut nous expliquer pourquoi il faut être sage et on n'a plus besoin de nous menacer avec des espèces de mythes, ce sera chouette. Et puis je suis devenue grande et on m'a dit, attention, fais pas ce que tu veux de ton cul, sinon tu seras une salope. Ok. Alors moi, évidemment, je veux pas être une salope parce qu'apparemment, c'est pas bien vu comme on me le présente. Donc j'ai dit, je vais réfléchir à comment je peux faire pour ne pas être une salope. Mais alors déjà, excusez-moi, mais c'est quoi exactement une salope? Alors c'est très compliqué de répondre clairement à cette question. On m'a donné plein de réponses différentes et je vais essayer un petit peu avec vous de réfléchir à ces différentes pistes de réflexion sur qu'est-ce que c'est une salope et donc comment faire pour ne pas en être une. Alors la première chose, c'est par exemple, la salope, c'est quelqu'un qui a beaucoup de partenaires sexuels, qui cumule les partenaires sexuels. Ok, facile, pas de souci. Alors est-ce qu'il y a eu une convention internationale de la salope ou de la meuf bien? En tout cas, j'ai pas été invitée, mais qui a déterminé et a défini quand et comment quel était le nombre de partenaires sexuels qui étaient acceptables ou non? Est-ce que c'est un quota par semaine, par mois? Est-ce que c'est un ratio? Je sais pas, par exemple, si pendant 3 mois, je me tape personne, est-ce que ça veut dire que le mois d'après je peux me taper 10 partenaires différents et je suis pas... Enfin je sais pas, en tout cas j'aimerais bien qu'on m'explique parce que du coup ce flou c'est un peu pratique, je peux toujours être la salope de quelqu'un, tu peux toujours être la salope de quelqu'un parce qu'il suffit que je sois abstinente que je sois abstinente toute ma vie et je pouvais traiter absolument toutes les autres personnes de salope. Enfin bref, c'est vraiment compliqué et en même temps très pratique de ne pas avoir de chiffres précis. Mais alors on me dit, mais non, tu comprends pas, en fait, la salope, c'est celle qui couche sans être amoureuse, qui couche sans sentiment, en fait, qui couche un peu avec n'importe qui. D'accord, donc en fait, pour être une fille bien, je dois attendre d'avoir trouvé l'amour pour aller dans ces rapports sexuels faciles. Donc il ne faut pas que j'aime le sexe, il faut que j'aime mon partenaire uniquement. On me dit, mais si, il faut aimer le sexe, c'est important d'aimer le sexe. D'accord. Mais alors, c'est quoi aimer le sexe? Donc la salope, c'est celle qui aime trop le sexe. Ok, qui aime trop le sexe. Donc qui aime trop le plaisir qu'elle tire de ses rapports sexuels, qui aime trop avoir des orgasmes, qui trouve que les orgasmes sont agréables, peut-être. Je ne sais pas. Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt bon signe de prendre du plaisir dans ses rapports sexuels. J'ai l'impression qu'encore une fois, j'ai rien compris. Et en fait, c'est tellement un problème, pour les femmes, je précise que je parle des femmes. Pour les femmes, c'est tellement un problème d'aimer le sexe et de prendre plaisir au sexe qu'il y a une pathologie qui décrit la quête du plaisir sexuel par les femmes. Et l'étymologie même de ce terme, qui est la nymphomanie, exclut les hommes de cette pathologie. Ça ne peut pas être quelque chose qui touche les hommes, puisque un homme qui aime le sexe et qui prend du plaisir dans le fait d'avoir des rapports sexuels, on appelle ça un épicurien. Un épicurien ou un bon vivant. En revanche, la femme, c'est une nymphomane quand c'est pathologique, sinon c'est juste une salope. Ok.
Alors après, on m'a dit complètement l'inverse. Non, la salope, ce n'est pas celle qui couche par amour du sexe, c'est celle qui couche par intérêt. Genre, d'accord, c'est celle qui couche pour obtenir une promotion, c'est celle qui couche pour avoir de l'argent, c'est celle qui couche pour avoir des cadeaux ou pour de la reconnaissance ou quelque chose comme ça. Et moi, je me demande, il n'y a pas de mot pour définir la personne qui se retrouve de l'autre question, de l'autre côté de cette transaction. Il n'y a pas un mot dénigrant pour définir le patron qui va coucher avec une, qui va donner une promotion à une personne en l'échange de faveurs sexuelles. Moi, dans ma version du monde, à moi, c'était un peu lui, la salope, ou en tout cas la personne qu'il fallait insulter. Mais non, c'est la personne qui se retrouve de l'autre côté. Ok, très bien. Et alors, on me dit aussi, bah oui, mais du coup, la salope, c'est celle qui ne se respecte pas. Elle n'a pas de respect pour eux-mêmes, pour elle-même. Et là, c'est vraiment, je pense, l'aspect qui est le plus problématique pour moi. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que je ne me respecte pas quand je laisse quelqu'un, quand je laisse autrui me manquer de respect et que je ne dis rien. Que je me laisse manquer de respect sans réagir. C'est là que j'ai l'impression que je ne me respecte pas. Et donc, est-ce que dans la tête de toutes ces personnes qui trouvent que la salope, c'est une femme qui ne se respecte pas, le sexe, le coït de la part de l'homme est forcément un manque de respect vis-à-vis de la femme. Je sais que je parle dans une vision complètement hétérocentrée, mais c'est le but, enfin, c'est fait exprès. Ça, parce que moi, j'ai l'impression qu'on peut vraiment me baiser et me respecter en même temps, même que c'est plutôt comme ça que j'ai l'habitude de pratiquer. Mais peut-être encore une fois que je n'ai rien compris. En tout cas, voilà, faut vraiment se poser la question de pourquoi ne pas se respecter, pourquoi on ne se respecte pas quand on couche. Moi, je ne sais pas. Il y a aussi ce truc, cette phrase que j'adore, la salope. À cause de la salope, on ne respecte pas les autres femmes. On ne respecte pas les autres femmes parce qu'il y en a une, elle s'est conduite comme une salope. Du coup, on pense que toutes les femmes sont des salopes. Et ok, donc si certaines femmes se feraient traiter de salope, se feraient agresser sexuellement, se feraient je ne sais pas quoi, ce serait à cause d'autres femmes qui auraient fait ce qu'elles voulaient à un moment donné, et non pas à cause de la culture du viol, non pas à cause d'une société qui trouve qu'on peut élire président des États-Unis un agresseur sexuel reconnu, ou qu'on peut mettre à l'honneur dans un festival de cinéma un violeur sur mineur reconnu et condamné. Non, c'est à cause de femmes, de machines qui, une fois, a fait ce qu'elle voulait, avec qui elle voulait, et même qu'elle y a pris un peu de plaisir, la salope. excusez-moi, je suis de nouveau perdue dans mes notes. Oui, donc voilà, moi en fait j'ai la solution, c'est ça qui est bien, parce que je suis pas juste venue pour me plaindre.
Merci Clémine, hein, c'est là.
Bon, déjà vous avez compris que la salope c'est forcément une fille, hein. C'est une fille, il y a même pas d'insulte masculine, parce qu'il y a bien salaud, mais salaud voilà. C'est pas la même connotation, c'est une connotation morale. Le salaud c'est oh t'es pas lui c'est pas gentil, c'est vraiment un salaud, alors que la salope c'est sexuel.
Il y a clairement une connotation.
C'est garce, c'est connasse, mais c'est sexuel. Donc la salope c'est forcément une fille, c'est forcément le sexe. La sexualité féminine qui est diabolisée ou pathologisée. Et donc la solution, excusez-moi, j'y viens, je fais du suspense. La solution, en fait, c'est que la prochaine fois que t'entends quelqu'un dire « Hé machine, c'est une salope parce que gnagnagnagna », tu lui dis « Je vais te dire un truc, le Père Noël, la petite souris et les salopes, c'est la même chose, ça n'existe pas. »
Trop bien.
Si ça existe, on en est toutes. Voilà. Même maman. Voilà.
Waouh, merci.
Merci Clémy, ça fait du bien. Mais bonne phrase, j'avoue que c'est super. Ouais, le Père Noël, la petite souris et la salope, ça n'existe pas.
Ce sont juste des mythes pour activer notre système de peur, récompense, etc. À mon humble avis. Mais je ne sais pas de quoi je parle.
Mais c'est ça parce que. Quoi, t'as pas été invitée à la conférence, toi?
Mais non, c'est quoi cette convention? On dit même pas là, combien je peux encore pécho avant la fin du mois pour rester une fille bien. Dites-moi!
Dites-moi, c'est ça. Bah, parce qu'après, t'as ton compteur, tu sais, qui tourne juste au-dessus de ton vagin, tu sais, où il y a tous les numéros. Après, on est perdu parce que c'est aussi écrit sur nos fronts, etc. Avec combien de personnes on a eu des rapports sexuels.
Et puis, je veux savoir aussi s'il y a un signal quand j'arrête de me respecter, genre bip bip, ah ça y est, là, je me respecte. Désolée, je peux pas rentrer avec toi, sinon je... Non,
non là, je ne me respecte pas. Alors juste, pour le coup, c'est une petite parenthèse, il y a un autre truc qui s'appelle « tout le monde s'en fout » qui fait aussi un petit topo sur la salope, avec une vision plutôt psychanalytique, etc., qui est pas trop mal. Petit conseil, vidéo YouTube à regarder très vite.
Merci pour la référence, on checkera ça.
Ah oui, avec plaisir. Eh ben, c'est bientôt la fin, là, on va bientôt se quitter. Donc, avant de partir, moi, je me suis dit, on ne peut pas laisser les gens comme ça avec toute cette honte.
Oh bah non.
Et donc, je me suis dit, faut que je leur parle d'un truc. Il y a une meuf trop bien qui s'appelle Brené Brown. Alors, on mettra un lien sur la page Facebook avec ces petites vidéos, parce que si je commence à vous épeler, ça va être un peu compliqué.
Il y a juste son prénom, il est trop classe, quoi.
Ouais, c'est la classe. Hein. Et donc, elle travaille et fait des études sociales à Houston, aux États-Unis. Et en fait, elle travaille sur la connexion entre la connexion à l'autre. Et donc, elle se rend compte, elle va voir les gens, elle fait des petits entretiens et tout, pitou. Et puis, elle se rend compte que le problème lié à la connexion à l'autre, c'est la honte et aussi la peur. Et en fait, elle dit que tout ça, c'est lié au fait d'avoir le sentiment de valoir, au fait d'avoir le sentiment qu'on vaut quelque chose, qu'on appartient à quelque chose et qu'on est aimé. Et elle se dit, bon, en fait, les gens qui ont ce sentiment-là, en fait, ils ont moins honte. Et ils ont moins honte, pourquoi ? Parce qu'il y a quatre choses essentielles qui leur permettent de baser ça. C'est l'idée qu'elles ont le courage, ces personnes, le courage d'être imparfaites. Le courage et l'empathie. L'empathie, c'est de se dire que je suis gentille avec moi et j'ai de l'empathie pour moi autant que j'en ai pour les autres et voire même avant d'en avoir pour les autres. Et que voilà, c'est ça qui est important. La connexion, alors elle disait qu'ils sont connectés aux autres par leur authenticité, c'est-à-dire laisser derrière eux ou elles la personne qu'ils rêvent ou qu'elles rêvent d'être. C'est-à-dire, vous savez, cette personne qui est tellement parfaite et qu'on aimerait tous et toutes être, qui est trop géniale et en même temps qu'on n'arrive jamais à atteindre. Et donc, à chaque fois, on se dit « Ah là là, je suis juste une grosse merde ». Eh bien, elles laissent tomber cette personne, ou en tout cas, elles essayent, et en se disant qu'elles peuvent être aimées pour ce qu'elles sont. Et le plus fondamental et le plus fort, c'est l'idée d'être vulnérable. Et donc, être vulnérable, c'est-à-dire comme la nécessité à un moment de dire « je t'aime » à quelqu'un qui ne nous l'a pas dit en premier, de pouvoir prendre la main ou faire le premier pas, de demander une augmentation, de ce moment un peu où on est sur la brèche. Et donc ça, c'est dans sa première vidéo qu'elle dit ça, elle dit qui s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité ». Et dans la deuxième, qui est « Écouter la honte », elle dit « Attention ». La vulnérabilité, c'est pas la faiblesse. On n'est pas faible, justement, quand on a cette vulnérabilité. Au contraire, on a cette force-là et ce courage de faire des choses. Et moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte aussi sur... je pense qu'il y a quelques années, j'aurais jamais fait de la radio parce que juste l'idée qu'à un moment, mes paroles restent... Enfin, voilà, quelque part, et qu'il y ait une marque et qu'une trace de ce que je dis, oh mon Dieu. Et ben aujourd'hui, voilà, je pense que c'est aussi ça, faire de la radio, c'est accepter d'être vulnérable et de pas faire les choses toujours parfaitement parce que on n'est pas parfaite et de nous voir, enfin voilà, et d'oser laisser les autres nous voir tels qu'on est, ouais, et même si il y a des trucs que peut-être qui vont pas kiffer, mais on s'en fout parce que on est assez, on a de la valeur et on mérite d'être aimé. Et je pense que voilà, on tente le coup et c'est aussi comme ça qu'on peut lutter contre sa honte et contre toutes nos hontes à l'intérieur. Et donc, c'était ma petite conclusion avec Brené parce que regardez-la, elle est exceptionnelle. En plus, elle est extrêmement drôle. Donc, voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Ouais, c'était parfait comme conclusion.
Ouais, alors du coup, on va terminer cette superbe émission. Le mois prochain, vous allez nous retrouver avec le collectif Queeras, dont je vous avais parlé il y a l'émission précédente. Du coup, je vous rappelle, c'est un collectif LGBTQI racisé en non-mixité. Et donc, voilà, on va recevoir le collectif, on va pouvoir lui poser toutes les questions dont on a envie. Et je vais vous laisser avec Gaëlle Faye, Irruption.
On sort en trombe, en ombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter, trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays, l'affiche et couleur sang. Emmanouchien, viens pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta
grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans mais on en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous adhérer des luttes. Donc nous on pend Peter Pan, on va redevenir adulte. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné ça va de soi. Angela qui fait une choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore